Bonsoir, cher Xavier.
Bonsoir, Arnaud.
Ce soir, Pléiade, mode d'emploi.
Pléiade, mode d'emploi avec Pérec, Georges Pérec. Vous vous rappelez que vous en aviez parlé de cette pléiadisation, excusez-moi, du néologisme l'année dernière avec Lucille Comeau. Elle vous avait demandé que représente pour vous la bibliothèque de la Pléiade. Eh bien, c'était à l'occasion de l'entrée de deux volumes de Jack London. Cette fois, on passe du Grand Nord à la place Saint-Sulpice puisque ce sont donc deux volumes de Georges Pérec qui vient d'être donc consacré sur papier Bible. Ce qui n'est pas si étonnant pour l'auteur de La disparition ou des choses, prix Renaudot, compte tenu d'une des tendances constatées par Lucille Comeau, de plus en plus de littérature populaire, tendance confirmée par Anne Odigier sur France Culture. Avant la Pléiade, Georges Pérec est entré dans la culture populaire, ce qui n'est pas banal. L'œuvre de Pérec est aujourd'hui devenue classique, semble confirmer Christelle Reggiani, qui elle a dirigé cette édition Pléiade, mais un classique particulier au XXe siècle, puisqu'a priori un des plus formaliste, hein, outre, disons, le corpus autobiographique. C'est un peu l'inverse de Germaine Taillefer dont on parlait hier. Georges Pérec n'a jamais quitté les rayonnages, lui. Il est plus lu en France que Jack London, plus renommé que Madame de Staël, qui vient aussi d'entrer au répertoire de luxe. C'est l'icône Georges Pérec, comme l'appelle Marie Dariussec dans Le Monde il y a quelques jours. Et il vient peut-être discrètement aussi chambouler le jeu. Chambouler le jeu et la mystérieuse hiérarchie établie par la collection. C'est un ovni, insiste l'écrivain, bien que sa parenté et ses amitiés soient évidentes. Sa façon d'écrire, dit-elle, est d'une insolente inventivité. Iconique, bien sûr, c'est l'inventeur de l'histoire avec sa grande hache, mais aussi profondément herméneutique, notamment avec ce qui est connu sous le nom de l'hypogramme, hein, vous le savez, une technique d'écriture qui postule, comme dit Marie Dariussec encore une fois, un centre absent, lettre manquante ou prison alphabétique. De fait, personne, ou presque même parmi les tentatives les plus fantasques de l'Oulipo, n'a fait cela. Iconique, donc herméneutique, et en retrait aussi un petit peu de la scène littéraire et de ses débats, l'écriture, c'est bien connu, l'ennuyait, il le disait, il n'affichait pas d'intérêt particulier pour un hommage posthume comme cette pléiadisation, un peu comme Michel Tournier, lui aussi récemment publié en cuir, qui disait « La Pléiade, je n'y tiens pas vraiment, je veux être lu ». Pérec, lui, l'appelait « la bibliothèque de l'homme cultivé ». Alors certains, comme Claire Devarieux dans Le Monde, se posent quand même la question d'une volonté posthume de Pérec d'être édité avec force appareil critique, un peu comme une ultime facétie, jeu de piste ou tour de force littéraire pour répondre à un texte bien sûr perçu comme herméneutique. Antoine Perrault, lui aussi dans La Croix, explique « Cette édition ne cesse de relancer l'imagination herméneutique du lecteur, ainsi que l'espérait sans doute l'écrivain. » En tout cas, rare auteur salué à l'unanimité pour son inventivité, son œuvre de romancier scientifique et ses livres expérimentaux, Georges Pérec est un homme qui a su traverser les temps et marquer les générations, continue-t-il. Mais c'est quand même d'abord un corsaire des lettres, il le dit, que laisse entrer Gallimard dans son Panthéon, un peu comme Romain Gary qui lui aussi va entrer en Pléiade. Alors, deux ordres de questions à partir de là. La Pléiade serait-elle en train de rattraper un retard? Et puis surtout, depuis 35 ans, Pérec est pillé, fouillé, statufié, dit encore un article du Monde. Y avait-il, de ce point de vue-là, besoin d'éditer Georges Pérec en Pléiade?
Alors déjà, on va ramener Claire Devarieux dans les locaux de Libération, plutôt que dans ceux du Monde.
Ah oui, c'était dans Libération.
Oui, ça...
Qu'elle me pardonne.
Ça peut être un mercato, hein. C'est la saison.
Je n'ai rien annoncé.
Mais on, hein, bon, on n'est pas au courant. Bah écoutez, on espère, je sais pas, elle va où elle veut, j'espère, Claire Devarieux. Qu'on salue, évidemment. Double question, alors... Avec, j'ai pas eu, j'avoue, l'occasion de me plonger encore dans cette pléiade de Georges Pérec, parce que ce qui est intéressant, en effet, c'est de regarder l'appareil critique, parce que c'est quand même ça qui nous intéresse dans les éditions de Pléiade, à part le plaisir de retrouver, ou parfois d'avoir des textes inédits. On a parlé de l'inédit de Pérec, qui est en Pléiade, mais qui était sorti auparavant, son premier roman inédit, qui était... très dispensable, mais intéressant dans le cadre d'une Pléiade. Peut-être oui. L'acheter à part, c'était peut-être, bon, c'est un coût commercial, on va dire ça comme ça. Hein. Ça va un intérêt tout relatif.
Il donnait déjà des pistes de lecture, voilà, avec la double narration, le double récit, qui pouvait annoncer, si on voulait bien réfléchir un peu.
Il a sa place tout à fait en Pléiade, pour le coup. Ce roman inédit. Elisabeth Philippe.
Oui, ce qui, est-ce que la Pléiade rattrape son retard? Ça, je n'en sais rien. En tout cas, c'est tout à fait justifié si on envisage la Pléiade comme une tentative d'épuisement d'un auteur, ça s'adapte parfaitement à Georges Perec, qui en a fait une de ses spécialités, tentative d'épuisement d'un lieu, d'un espace. Donc en ce sens-là, moi non plus, malheureusement, je n'ai pas eu encore le temps de me plonger dans ces volumes et donc dans l'appareil critique, mais je pense que Perec s'y prête tout à fait, comme vous le disiez, Xavier, pour ce côté herméneutique. Effectivement, dans ce cadre-là, le premier roman qui avait un intérêt somme toute assez faible, mais dans ce cadre-là prend un relief différent. Donc voilà. Et puis Georges Perec, c'est quand même un écrivain majeur du XXe siècle qui, en plus, à travers son œuvre, en fait une peinture absolument fascinante. Donc à tout point de vue, je pense que il y a aucune question même à se poser sur la légitimité ou non de Georges Perec en Pléiade. Vous parliez d'auteur de la culture populaire.
Alors oui, j'avoue que ça m'a surpris.
Dans la façon dont il est réutilisé aujourd'hui.
Qui est très lu, en fait, quels que soient les livres. Je dirais grossièrement qu'il y a à boire et à manger, en fait.
Non, elle est très lu, je ne suis pas sûr, parce que peut-être que c'est un nom qui est connu.
En tout cas, dont on perçoit clairement l'influence qui persiste aujourd'hui. C'est sûr qu'un auteur comme Houellebecq, parce que Perec, c'est aussi quelqu'un, c'est un écrivain qui a introduit la sociologie au sein du champ littéraire.
Perec n'a jamais été autant lu que Houellebecq.
Jamais.
Mais qui est très lu aussi par des écrivains, c'est ce que vous vouliez dire.
Ah oui, c'est un écrivain pour écrivain, ce qui est une autre chose que populaire aussi.
Oui, et puis je pense peut-être que le grand public en retient aussi les prouesses,
l'aspect ludique, les jeux formels.
Et c'est vrai que la Pléiade peut être aussi l'occasion de redécouvrir ou de découvrir que derrière cet auteur ludique, ce champion effectivement de la contrainte, il y a aussi un auteur d'une profondeur absolue, dont W ou le souvenir d'enfance ou Un homme qui dort sont pour moi deux des plus beaux livres qui soient. Donc à tout point de vue, moi je peux que me réjouir de cette entrée de Georges Perec en Pléiade.
Florent Georgesco.
Je suis entièrement d'accord avec tout ce qu'a dit Elisabeth.
Oui, je tiens à le souligner. Pas le mal, hein,
Par ailleurs, il y a toujours un peu. Enfin, si entrer dans la Pléiade, ça vaut des articles de Marie Dariussec où on apprend que vous êtes une icône et un ovni, ça dévalue un tout petit peu cet événement. Il y a le problème de la pléiadisation comme cliché. On y revient. Il y a un moment où il y a quelque chose d'agaçant dans la volonté de fabrication d'un panthéon. Il y a un forçage. À partir du moment où Jean d'Ormesson est entré dans ce panthéon, on a commencé à avoir un doute sur la légitimité de l'opération en tant que telle. Par ailleurs, si ça donne l'occasion... je ne sais pas combien... Il faudrait savoir comment se vend un volume de la Pléiade de Perec. Il y a des Pléiades qui marchent très très bien, comme d'Ormesson. Mais par ailleurs, est-ce que ça donne accès, est-ce que ça permet de conquérir de nouveaux lecteurs? Je suis d'accord avec vous, Xavier, quand vous disiez populaire, l'icône, diraient certains, est populaire. L'image de Perec, beaucoup de gens connaissent la tête de Perec et ont une idée spontanée, comme vous le disiez, celle du jeu. Est-ce que un volume de la Pléiade permet à des gens qui n'ont que cette image en tête de découvrir l'œuvre? Je n'en suis pas absolument persuadé. Que par ailleurs, pour des gens qui s'y intéressent et qui veulent approfondir l'appareil critique, mais moi non plus, je n'ai pas eu le volume en main, donc je ne peux pas en juger, mais si l'appareil critique est bien fait, c'est évidemment, pour la connaissance de l'œuvre de Perec, un merveilleux outil, c'est très bien. Je ne suis pas sûr que ça change grand-chose, pour résumer, à la place des gens dans les lettres. En tout cas, ça ne devrait pas trop changer, parce que il n'y a aucune raison qu'une collection d'un éditeur particulier ait une puissance telle que ça nous impose un canon. Toutes les manières de recréer de l'académisme sont des voies dangereuses. Mais réjouissons-nous si ça nous donne à nous au moins qu'il est mon l'occasion de relire Perec et d'approfondir si le travail est bien fait.
Xavier Martinet.
Oui, j'aurais simplement voulu ajouter quelque chose concernant l'appareil critique, finalement, puisqu'il m'avait semblé voir quand même transparaître dans les articles de presse qui annonçaient cette pléiadisation un certain intérêt biographique encore pour Georges Perec, puisqu'effectivement il y a peu de textes de sa part qui sont véritablement autobiographiques, qu'on sait qu'il y a une influence assez importante de son enfance, la perte de ses parents, sur son écriture. Et peut-être, me disais-je, dans cet appareil critique, on verra plus précisément les liens, alors sans trop non plus, disons, faire d'analogie simple, mais entre cette question du lipogramme, de la disparition, et puis sa manière de percevoir l'enfance qu'il n'a pas eue, cette disparition des parents. Voilà, peut-être qu'on trouvera de nouvelles choses aussi.
On lit W, hein. Oui. On a quand même l'essentiel de la biographie, l'autobiographie de Georges Perec, l'absence de la mère, la disparition, la déportation, alors qu'il avait 7 ans, je crois,
oui.
Quand sa mère a été emportée par les Allemands. Bon, bah écoutez, il faudra qu'on travaille notre appareil critique.
Nous reviendrons en parler.
Pour en parler plus avant.